Laudetur Jesus Christus.
Douzième anniversaire de l'élection de François au trône de Pierre, un anniversaire particulier puisque le Saint-Père est toujours hospitalisé. Une manière pour lui aussi de nous transmettre un message bien précis, c'est ce que nous verrons juste après les titres. La Russie peu encline à accepter un cessez-le-feu en Ukraine, le Kremlin considérerait le déploiement de soldats européens comme un acte de guerre. La Chine appelle les États-Unis au dialogue, aussi bien sur les questions commerciales que sur le dossier du nucléaire iranien. Et puis l'opposition ivoirienne s'unit dans la perspective de la présidentielle d'octobre prochain. Une nouvelle donne qui pourrait être déterminante pour l'issue du scrutin, c'est ce que nous verrons.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Nuit tranquille pour le pape François dont l'état de santé continue de s'améliorer légèrement. C'est à l'hôpital Gemelli de Rome qu'il célèbre le 12e anniversaire de son élection au trône de Pierre. Les messages du monde entier arrivent comme ceux de diverses conférences épiscopales, dont celles de Pologne ou d'Argentine ou de chefs d'État comme le président arménien. Après 12 ans d'activité intense jusqu'à ce début d'année, le pape François est contraint de freiner. Les fidèles avant qu'il ne soit hospitalisé il y a 4 semaines l'avaient vu essoufflé et se déplaçant avec difficulté, une manière pour le Saint-Père de nous délivrer un message, comme le souligne Marie Jotil, médecin et professeur émérite d'éthique à la faculté de théologie de l'Université de Strasbourg et membre de l'Académie pontificale pour la vie.
À un moment donné, il ne pouvait plus marcher. Et ce qui m'a frappé, c'est son acceptation de la chaise roulante. Parce que c'est quand même une image, la chaise roulante. C'est accepter d'être dépendant. C'est montrer à tout le monde qu'on accepte de se reconnaître vulnérable. Et on voyait que dans cette vulnérabilité-là, il trouvait force et courage, même de voyager. Et ça, pour moi, c'est véritablement une attitude adulte. Une acceptation de la situation en acceptant de recevoir en Christ la force de la proximité avec tous. Lui parlait de l'odeur des brebis. Moi, j'ai envie de dire, rien que par sa vie, il a eu ce poumon enlevé quand il était jeune. Sa fréquentation des malades, cette chaise roulante. Aujourd'hui, cette longue hospitalisation, ben, j'ai envie de dire... Il prend l'odeur de l'hôpital, si je puis me permettre, pour se faire proche de tout le monde.
Des propos recueillis par Marie Duhamel. Demain, le cardinal Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège, célébrera dans la matinée dans la chapelle Pauline du Palais Apostolique une messe pour le pape François en présence du corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège. Ce soir, le chapelet sera conduit après les exercices spirituels de carême de la curie romaine par Mgr Iannone, préfet du Dicaster pour les textes législatifs. Le Kremlin répond à Donald Trump sur son offre de trêve de 30 jours en Ukraine et cela ressemble à un non. Cela offrirait un répit aux Ukrainiens, estime la présidence russe qui précise que le déploiement de soldats européens censés offrir une garantie de sécurité à l'Ukraine en cas de paix serait considéré ni plus ni moins comme un conflit armé direct avec Moscou. Les autorités russes disent tout de même attendre les émissaires américains pour discuter de cette proposition de cessez-le-feu. Une intervention directe de Vladimir Poutine est attendu dans la journée. En attendant, l'offensive armée dans la région de Koursk se poursuit avec la prise de la ville de Soudia, une nouvelle non confirmée pour le moment par l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne qui semble se retirer devant cette avancée toutefois. Kiev accuse par ailleurs Moscou, vidéo à l'appui, d'avoir exécuté 5 soldats ukrainiens capturés lors des combats. Une lettre d'accusation a été envoyée en ce sens à l'ONU et à la Croix-Rouge. Les Britanniques respirent mieux. Les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 5,7% en 2023 pour atteindre leur plus bas niveau depuis 1879. Les émissions de CO2 sont maintenant inférieures de moitié à celles enregistrées en 1990, sans préjudice pour la croissance économique puisque le PIB a augmenté dans le même temps de 83%. Mais selon le Comité britannique sur le changement climatique, cela ne doit pas empêcher le gouvernement de présenter un plan ambitieux pour atteindre la neutralité carbone en 2050. À Londres, Jean Jaffray.
En effet, la baisse des émissions de CO2 en 2023 est en grande partie due à une réduction de la demande de gaz de 11%. La France a pu reprendre ses exportations d'électricité produites par ses centrales nucléaires remises en état. Certes, la baisse de dioxyde de carbone a été plus prononcée que la moyenne annuelle nécessaire pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais elle n'est attribuée à aucune action délibérée sur le climat. Les plus gros émetteurs de CO2 sont les transports, le bâtiment, l'agriculture et la production d'électricité. Depuis leur arrivée au pouvoir en juillet dernier, les travaillistes ont considérablement réduit leur programme ambitieux en faveur du climat. Priorité est donnée à la croissance par la ministre des Finances, Rachel Reeves, allant jusqu'à défendre la construction d'une troisième piste à l'aéroport de Heathrow au grand dam des Verts. Pour rattraper le retard pris sous les conservateurs, le Comité sur le changement climatique demande au gouvernement de mettre en place un ambitieux programme d'action. Tripler les éoliennes offshore, multiplier par 5 les panneaux solaires, isolation thermique de 3 millions de logements, enfin augmenter les ventes de voitures électriques et promouvoir les pompes à chaleur. Londres, Jean Jaffray, Radio Vatican.
Une attitude positive et coopérative, voilà ce que demande la Chine aux États-Unis de Donald Trump, plutôt silencieux ces dernières semaines. Pékin appelle au dialogue après que des droits de douane ont été imposés par Washington, de même sur le sujet du nucléaire iranien. La Chine, Jean-Benoît Harel, veut apaiser les tensions et éviter une confrontation militaire.
Oui Xavier, c'est un appel au calme sur tous les sujets lancés par la Chine, alors que les escalades de différentes tensions se multiplient depuis le début de l'administration Trump. D'abord sur le terrain commercial, ce matin Pékin a exhorté Washington à revenir sur la voie du dialogue en s'appuyant sur le respect et le bénéfice mutuel. En effet, depuis début mars, Trump a relevé à 20% les droits de douane supplémentaires appliqués à tous les produits chinois entrant aux États-Unis, entraînant une riposte chinoise sur les produits agricoles américains. De même, les nouveaux droits de douane sur l'acier inquiètent la Chine, premier producteur mondial. Autre sujet, celui du nucléaire iranien. Alors que l'Iran aurait augmenté ses réserves d'uranium, les États-Unis ont demandé hier une condamnation de Téhéran par le Conseil de sécurité de l'ONU. Là encore, la Chine a demandé, je cite, « une solution diplomatique pour éviter un éventuel conflit ». Elle reçoit demain la Russie et l'Iran pour discuter d'une reprise des négociations du traité conclu en 2015, mais que les États-Unis de Donald Trump avaient quitté en 2018.
Jean-Benoît Harel. Israël, une nouvelle fois pointé du doigt par l'ONU, une commission d'enquête des Nations Unies considère que les attaque systématique de l'armée israélienne contre la santé sexuelle et reproductive à Gaza sont des actes génocidaires. En cause, la destruction jugée donc systématique des installations de soins de santé, notamment les maternités et la principale clinique de fécondation in vitro de Gaza, combinée à l'utilisation de la famine. Des allégations infondées, catégoriquement rejetées par Israël, qui critique le travail des enquêteurs et leur méthodologie. À quelques mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, prévue en octobre prochain, des leaders de l'opposition jouent la carte de l'union pour contrer le RHDP, le parti de l'actuel président Alassane Ouattara. 25 formations ont officiellement lancé la coalition pour l'alternance pacifique. Ce nouveau bloc entend obtenir des réformes électorales qui garantissent une élection transparente, crédible et sans violence. Pour l'analyste politique ivoirien Sylvain Guessant, une véritable union de toute l'opposition ivoirienne pourrait susciter l'alternance cette année.
L'opposition s'est dit qu'à se mettre ensemble, cela pourrait peser davantage parce que cela regorgerait plusieurs électeurs, une base politique assez considérable. Cela permettrait à l'opposition de se faire attendre davantage. Les élections qui ont eu lieu depuis la présidentielle de 2010, qui était quand même ouverte, le taux de participation n'a pratiquement jamais dépassé 30%. Mais on pourrait se dire que c'est parce que l'opposition était absente que le taux de participation n'a pas dépassé 30%. Donc avec la dynamique suscitée par le retour du président Laurent Gbagbo, de M. Charles Bleu Goudé, et surtout l'arrivée de M. Tidiane Thiam dans l'arène politique ivoirienne, il y a une réelle nouvelle dynamique. Moi, je pense bien que cette opposition-là, unie, pourrait susciter l'alternance en 2025. À 7 mois de la présidentielle, si le président Alassane Ouattara ne voulait pas se présenter, on aurait déjà vu peut-être un autre leader du RHDP en train de sillonner certains départements, de parcourir certaines régions. Ce n'est pas le cas. Moi, je pense qu'il sera candidat. C'est tout ça qui suscite des craintes. Parce que, bon, on avait une constitution qui limitait à 2, elle a été changée. Là, on passe au 4e mandat pratiquement. C'est tous ces sujets-là qui suscitent des craintes dans la rue d'Abidjan.
Des propos recueillis par Myriam Sandouno. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 18h heure de Rome. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va ainsi que sur notre page Facebook ou notre compte X. Excellente journée à toutes et à tous.